C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, Patrick Lagacé, notre collègue dans la presse, nous parle d'un cas d'aide médicale à mourir qui a été refusé. C'est une histoire d'une tristesse infinie, mais c'est important de la partager parce que, en toile de fond, c'est tout le débat sur les critères d'aide médicale à mourir. Alors, c'est l'histoire de Manuela Valente qui s'est enlevée la vie à 82 ans. C'est une femme qui était autonome, qui avait une bonne santé, sauf un problème qui découlait d'une détérioration de sa vision. Et progressivement, elle perdait la vue. Elle souffrait de glaucome. Et elle a tenu une espèce de registre de la progression de la maladie. Par exemple, elle écrivait le 2 mai 2019... « Je suis devenu la pièce du casse-tête familial qui n'arrive plus à s'insérer parfaitement dans le paysage. Mes bords ne s'ajustant plus à ceux des autres, il y a toujours trop d'espace entre nous. Les gens que je croise dans la résidence sont tous des inconnus puisque je n'arrive pas à distinguer leurs traits. Je me sens comme un fantôme au milieu de d'autres fantômes. » Et ça s'est dégradé progressivement, à un point où elle a demandé l'aide médicale à mourir. Et on lui a dit, vous n'êtes pas éligible. Et elle a donc malheureusement pris la décision de s'enlever la vie. Et elle a fait le saut du balcon de sa résidence au 6e étage, à Saint-Lambert. Il y a une enquête du coroner qui, évidemment, a été instituée. Et les proches, les membres de sa famille se demandent, mais pourquoi on lui a refusé l'aide médicale à mourir? On voyait qu'elle dépérissait, qu'il n'y avait pas d'issue favorable pour elle. Et ce qu'il faut souligner dans son cas, c'est qu'elle a fait les démarches. Et là, on apprend ce matin qu'elle était éligible. C'est ça qui est grave. Et Patrick a raison de dire, on peut pas pointer du doigt le médecin, puis je comprends qu'il y a un secret médical et tout ça, mais quand même, il y a d'autres personnes qui souffraient du même genre de maladie que cette femme, Mme Valente, et qui ont pu obtenir l'aide médicale à mourir. Et elle était admissible à 100%. Celui qui dit ça, c'est le docteur Georges Espérance, à qui on jase de temps en temps, qui est un neurochirurgien à la retraite qui a donné l'aide médicale à mourir plusieurs fois. Et il dit très clairement que le caractère grave et incurable du glaucome, sans traitement pour le compenser ou l'atténuer, était tellement avancé, irréversible, que cette femme avait des souffrances psychologiques et existentielles très claires. On ne peut pas nier cette souffrance-là. Et il y a, dit-il, 29 cas de personnes ayant reçu l'aide médicale à mourir qui correspondent à peu près aux problèmes de santé de Mme Valente. Et ce que ça montre, c'est que tous les débats qu'on a sur l'aide médicale à mourir, puis qu'on a beau élargir les critères pour permettre aux gens qui le souhaitent de finir leur vie de cette façon-là, ben il y a de la confusion qui s'installe. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Puis la loi fédérale, puis la loi québécoise... Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui peuvent peut-être avoir de la difficulté à s'y retrouver. Il y a donc une enquête du coroner là-dessus. Je vous invite à lire ça ce matin. C'est extrêmement touchant. D'autre part, Alain en a glissé un mot. C'est aujourd'hui que comparaissent les 5 joueurs impliqués dans le scandale d'agression sexuelle qui donc s'est produit en 2018 des membres de l'équipe de hockey junior du Canada à London. Et la police a pas dit un mot depuis le début. Les arrestations ont été faites. En fait, les gens se sont présentés au poste de police de London. Les joueurs vont comparaître aujourd'hui. C'est une comparution technique, si on veut, établir les paramètres de la suite des choses. Puis il y a peut-être des conditions, des demandes qui vont être déposées par le procureur ou les avocats qui représentent les joueurs de hockey. Et la police va faire une conférence de presse. Là, il faut comprendre qu'il y a un procès qui est en préparation et que la police ne viendra pas divulguer de la preuve. Ça ressemble plus à une opération de relations publiques parce que, il y a quelques années, la victime avait porté plainte à la police et la police de London avait conclu qu'il n'y avait pas matière à accuser. Et quand la bombe a éclaté et que ça a éclaboussé Hockey Canada puis qu'on a appris qu'il y avait un fonds secret pour compenser des victimes, ben là, on a réactivé l'enquête policière et soudainement, on arrive à des conclusions tout à fait différentes et à la mise en accusation des joueurs. Et là, on peut être certain que la police de London, l'opération de relations publiques ce matin, c'est d'essayer de se dire, pourquoi on a dit non il y a quelques années, puis pourquoi on peut dire oui maintenant. Et aussi, si on parle de conférence de presse, il y en a une aujourd'hui concernant le stade olympique. La ministre Caroline Proulx va, selon toutes les sources là, qu'on peut voir ce matin, Radio-Canada, la presse, là, dévoiler les projets futurs de rénovation du stade olympique. Le toit du stade sera remplacé. L'anneau qu'il faut aussi remplacer, ben ça va se faire. Et ça va coûter quelques centaines de millions. On pense probablement autour de 750 millions. Et là, si vous avez des montants qui peuvent s'ajouter, on ne sait jamais quand on commence des travaux de cette nature-là, ben peut-être qu'il y a des travaux pour 1 milliard pour restaurer et rajeunir cette infrastructure qui a tellement fait l'objet de débats. On aime le stade, certains détestent le stade. Moi, je trouve que Michel Labrecque a fait un job extraordinaire quand vous regardez tout le parc olympique puis comment ça a été revitalisé au fil du temps. Donc, aujourd'hui, on aura le détail. Il y a un consortium et ça va coûter combien à peu près puis ça va prendre combien de temps. Très bien, on va regarder quelques nouvelles concernant la santé. D'abord, on a appris hier qu'à compter d'aujourd'hui, les gens qui ont entre 50 et 74 ans pourront avoir accès plus rapidement à un dépistage du cancer colorectal. C'est un premier test et jusqu'à maintenant, ça passait par une ordonnance médicale. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans les centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie, dans toutes les régions du Québec, on va offrir ce service. On prend rendez-vous, comme on faisait pour les vaccins, par le site Clic Santé. Donc, pour la première fois, on va dépister ce type de cancer. C'est un test quand même important, simple, rapide. Et ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous vous prenez rendez-vous, vous inscrivez, vous faites vous-même votre prélèvement, puis vous le ramenez 48 heures plus tard. Et l'infirmière qui va s'occuper de votre dossier va faire le suivi du résultat. Donc, il faut détecter tôt. Il y a coloscopie qui est une option, mais c'est une première étape, puis ça peut vous amener peut-être justement à parce que c'est un type de cancer d'abord qui touche beaucoup de gens et qui est de nature silencieuse. Et quand il y a des symptômes plus graves, malheureusement, souvent, il est peut-être un peu tard. Donc, c'est une approche intéressante, c'est une bonne nouvelle. D'autre part, c'est Thomas Gerbette à Radio-Canada qui nous apprend que les hôpitaux du Québec sont encore équipés d'adresse au graphe. Là, je me suis dit, mais c'est quoi ça, l'adresse au graphe? Bon, c'est une machine qui date des années 80 et qui fait en sorte que dans les hôpitaux, on prend votre carte d'assurance maladie et on imprime les informations qui sont sur votre carte. C'est comme les anciens trucs pour les cartes de crédit. Alors, moi, je pensais que ça n'existait plus. Ben non. Alors, sur l'ensemble des formulaires, et là, c'est une vieille technologie, si on peut appeler ça une technologie, c'est que depuis quelques semaines, on se rend compte qu'il y a une pénurie provinciale des rouleaux d'encre pour ces appareils. Déjà qu'on avait le fax, là, on a, semble-t-il, des problèmes. Le fabricant a cessé de les produire l'été dernier et les stocks dans les hôpitaux sont épuisés. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une technologie différente? Ça a l'air que c'est évidemment assez compliqué. Et il semble qu'il n'y a pas de substitut sur le marché, répond le 6 de la Montérégie Est dans une des notes de service. On demande au personnel d'utiliser des papiers carbone par-dessus les formulaires et la carte d'hôpital pour compenser le manque d'encre. On est au Québec en 2024, puis on a encore cette technologie désuète. C'est complètement ridicule. Et puis, toujours dans le domaine de la santé, Québec qui va réduire progressivement son recours aux agences de placement, on sait qu'il y a un objectif. Donc, j'ai hâte de voir comment on va faire en sorte de répondre aux besoins, par exemple, d'un hôpital, si on se tourne de moins en moins vers les fameuses agences privées. Est-ce qu'on va faire du temps supplémentaire? Est-ce qu'on a procédé à des embauches? Est-ce qu'on a assez de personnel? Le point d'interrogation demeure. Et puis j'ajoute ce matin dans les coops de l'info un texte sur votre carnet de santé Québec. Il y a 6 millions de Québécois qui sont pas encore inscrits. Puis dans ce carnet de santé, vous retrouvez des informations comme des résultats d'examen, prise de sang, par exemple. Puis normalement, le résultat est inscrit, puis votre médecin l'obtient 30 jours avant, ce qui fait qu'il peut vous parler et analyser. Le problème, c'est que les gens, évidemment, peuvent lire ça sans avoir trop de connaissances, puis s'énerver pour rien, puis être inquiet. Il y a un médecin qui témoigne en disant il faut souvent mettre en contexte les résultats de ces examens, mais c'est clair que c'est pas encore très à la mode. Bon, la FAE va faire le point ce matin sur les votes qui ont été pris. L'entente de principe a été entérinée. Mais si on résume ce qui se passe, là, c'est que les profs ont dit oui, mais ils sont en maudit. Parce que, considèrent-ils, les augmentations de salaire, ça va, mais le réaménagement de la classe, le cadre de travail, n'est pas à la hauteur des attentes. Et encore là, j'ai été inondé de courriels de profs qui me disent « ça ne change absolument rien, mis à part la paye, quelques vœux pieux, mais pour le reste, c'est malheureusement raté. » Et on a encore beaucoup de cas d'enfants qui ont des plans d'intervention, des enfants qui représentent des difficultés, puis il n'y a pas rien dans la convention qui fait en sorte que la tâche va être allégée. Il va falloir un jour que le gouvernement du Québec nous explique ce qu'il a récupéré dans cette négociation. Rappelez-vous, M. Dubé en santé, Bernard Drainville à l'éducation, Sonia Lebel au Trésor, ils nous ont dit c'est une négociation départ, là, importante, parce qu'on veut avoir plus de souplesse, on veut offrir un meilleur service aux Québécois en santé et en éducation. Puis on va donner des augmentations, puis en échange, on va aller chercher de la souplesse, de la flexibilité, de la mobilité. Mais on n'a pas un siffle qui nous arrive de Québec. On ne sait pas trop ce qu'on a obtenu, nous, les contribuables, qui payons pour la facture qui vient de s'ajouter. Puis tout ce qu'on sait, c'est que les profs ont l'air en tabarouette parce qu'ils disent qu'ils pensaient obtenir des gains importants sur l'aménagement du travail, puis c'est pas le cas. Alors, j'ai hâte de voir le point de presse de la FAE. En plus, je ne sais pas combien de profs qui m'écrivent, concernant le déplacement des dates des examens du ministère, alors que ça se passe à la fin de l'année. Là, il paraît que Québec va revoir ça, mais les profs me disent, on a des classes où il fait chaud, on va accumuler les examens, ça va être une surcharge pour les enfants, c'est pas la bonne approche. Puis le plan de rattrapage, ce que je vous disais l'autre jour, les stagiaires n'ont pas le droit, puis des sélections qui sont faites, deux étudiants, deux élèves par classe, point à la ligne, puis les autres, on verra si on est capable d'avoir du personnel. Ça commence à être vrai. Fait que disons que les signaux en provenance du monde de l'éducation sont pas ce qu'il y a de plus, stimulant. Et j'ajoute ce matin le Devoir qui nous parle des chiffres concernant les demandeurs d'asile. Là, c'est la bataille entre Québec et Ottawa. Vous savez que Québec a dit on accueille 48 % des réfugiés. Ça n'a pas de bon sens. Puis Ottawa doit payer. Ottawa dit, on va payer, mais on a des chiffres qui montrent que c'est pas 48 %, c'est 35 %. Ça, c'est la version fédérale. C'est plus que le poids du Québec dans le Canada, mais c'est moins que ce que Québec prétend. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui arrivent par le Québec, mais ils restent pas ici. Ils vont s'installer ailleurs, dans une autre province, ou encore ils retournent chez eux, ou se poussent du côté américain. C'est dans le Devoir que vous retrouvez ça ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Une bonne nouvelle en santé. À compter d'aujourd'hui, les personnes âgées entre 50 et jusqu'à 74 ans peuvent se procurer sur Clic Santé un test maison simple, rapide en plus, pour dépister des cas de cancer colorectal. Et ce qu'on me dit, c'est que la fréquentation sur le site ce matin est quand même importante. Je vais en parler avec le docteur Michael Bensoussan, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, pour savoir exactement de quoi on parle. Docteur Bensoussan, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcan.
D'abord, expliquez-moi la nature de ce test et pourquoi c'est important là, pour les gens entre 50 et 74 ans de passer le test.
Alors en fait, c'est un test qui existe depuis bien longtemps, qui est la recherche de saignement occulte dans les selles. Occulte, ça veut dire du saignement qu'on voit pas. Le principe, c'est qu'on considère que quand on a dans le côlon une lésion, qu'elle soit bénigne, c'est-à-dire ce qu'on appelle un polype, ou quand le polype est devenu trop gros et qu'il a malheureusement dégénéré en cancer, donc on a un cancer du côlon, ces lésions, elles peuvent saigner, mais de manière invisible, c'est-à-dire on ne voit pas dans la bol avant de flusher qu'il y a du sang. C'est du saignement qu'on ne pourra repérer qu'avec ce genre de test. Un petit saignement goutte à goutte, c'est pour ça qu'on appelle ça le saignement occulte. Donc ce test-là, il y a déjà beaucoup de vos auditeurs et de vos auditrices qui l'ont déjà fait. C'est juste une petite brosse qu'on passe dans les matières qu'on vient d'évacuer. On range ça dans un étui et on va ramener ce test justement en ayant pris rendez-vous sur Clic Santé à un infirmier ou une infirmière dans les centres de vaccination. La seule différence, c'est qu'avant ce test, pour le faire, il fallait se le faire prescrire, soit par son médecin, soit par une IPS, soit par le pharmacien dans certains cas. Mais là, en fait, le ministre Dubé a décidé de lancer enfin, ce programme national au niveau québécois de dépistage du cancer colorectal. On est en train de parler, Monsieur Arcan, du cancer, le deuxième cancer le plus tueur au Québec. Ça fait 2500 morts par an au Québec, le cancer colorectal. C'est un programme, justement, où on n'aura plus besoin de passer par son médecin ou son infirmière. Ce test de recherche de saignement dans les selles, on pourra uniquement se le procurer en allant cliquer sur Clic Santé. Et quand ce test est positif, c'est-à-dire que le test dit qu'il y a un saignement occulte dans les selles, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il faut prendre un rendez-vous pour une coloscopie. Ça, c'est les examens qu'on fait nous autres, les gastro-entérologues. Donc ça, c'est une caméra qu'on va introduire pour aller justement confirmer qu'il y a la présence d'un polype et évidemment l'enlever pour éviter que le cancer survienne quelques années plus tard. Voilà les grandes lignes.
Parfait. J'ai quelques questions des auditeurs. D'abord, il y a un auditeur qui dit, est-ce que faut vraiment passer ce test avant? Est-ce que c'est pas préférable d'aller directement à une coloscopie pour savoir ce qui se passe pour vrai?
Alors, c'est intéressant ce que dit cet auditeur. C'est sûr que l'idéal, ce serait que tous les Québécois et les Québécoises entre 50 et 74 ans passent une coloscopie. Mais Monsieur Arcan, c'est impossible. Vous imaginez bien qu'avec les listes d'attente en endoscopie qui ont un peu explosé, notamment suite à la pandémie et qu'on n'a toujours pas rattrapé dignement, si on commençait à faire des coloscopies de dépistage à tout le monde, on s'en sortirait plus. Donc c'est pour ça qu'on prend ce test-là, pour ne faire passer les coloscopies qu'aux gens dont le test est positif. En revanche, il y a des gens qui ne doivent pas passer par ce test-là parce qu'ils ont un risque qui est déjà trop important. Ça, c'est les gens qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn, colite ulcéreuse. Eux, ils n'ont pas besoin de faire ce test. Ils ont des coloscopies régulièrement. Et les auditeurs et auditrices qui ont des antécédents familiaux au premier degré. Premier degré, c'est papa, maman, frère et sœur. Ça concerne pas les grands-parents, les oncles et les tantes. C'est juste papa, maman, frère et sœur. Si vous avez des parents ou des frères et sœurs qui ont eu des polypes ou un cancer du côlon, vous ne devez pas faire ce test-là, vous devez directement passer une coloscopie. Mais là, évidemment, il va falloir passer par votre médecin de famille ou une IPS pour vous la faire prescrire. Okay.
L'autre question, si le test est négatif, est-ce que on va me contacter pour me le dire?
Alors, ça n'est pas précisé dans le programme de dépistage tel qu'il a été dit, mais je suppose que oui. Je suppose que ce sera disponible, ce serait logique. Parce que, est-ce qu'on va vous dire qu'en fait, si on vous contacte pas, ça veut dire qu'il n'y a rien? Ou si on vous contacte, en fait, quand on va contacter les gens, c'est parce que ça va automatiquement partir dans leur centre de service pour qu'ils aient une coloscopie. Moi, à mon avis, il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est pour ça que le ministre a parti ce programme pas idéalement comme le cancer du sein en envoyant un courrier à tout le monde, mais en disant aux gens de se mobiliser comme il le fait ce matin. C'est parce qu'à mon avis, le ministre veut voir comment ça va fonctionner, veut voir où vont être les problèmes dans les centres de prélèvement, sur le site de Clic Santé, parce que par exemple, ce matin, il y a plein d'auditeurs qui essayent sur Clic Santé. Ça marche très bien quand on rentre une adresse qui est sur la rive sud, mais ça marche pas encore bien sur les adresses à Montréal. Donc il y a certainement des choses qui sont en train de se mettre en place. Je suppose qu'il va y avoir dans les prochains mois des ajustements. C'est à mon avis pour ça que le ministère n'a pas parti ce programme comme on aurait souhaité qu'il le parte, c'est-à-dire en envoyant vraiment, en convoquant les gens plutôt qu'en les invitant à aller eux-mêmes sur Clic Santé.
Ouais. L'autre question des auditeurs, pourquoi de 50 à 74? J'ai quelqu'un qui a 76 ans qui dit, ben, pourquoi pas moi?
Il a raison, cet auditeur. En fait, c'est très discuté aux États-Unis, en Europe, c'est plutôt 45 ans, parce qu'il y a, on en avait déjà parlé, Monsieur Arcan, vous savez, il y a des cancers colorectaux qui surviennent chez des gens de plus en plus jeunes, donc on est plutôt en train de baisser cet âge-là. Et il y a aussi des gens qui, la population vieillit, et on a beaucoup de Québécois et Québécoises qui vivent en santé passé 80-85 ans. En fait, on s'est fixé cette limite-là parce que si le test est négatif, on se dit qu'on est tranquille pendant 10 ans. Donc si on n'a rien à 74 ans, ça veut dire probablement qu'on n'aura pas de cancer du côlon avant 84 ou 85 ans. Or, passé cet âge-là, la plupart des gens deviennent, parce qu'ils sont très fragiles, inopérables. C'est-à-dire que même si on leur trouvait un cancer du côlon, on ne se rendrait pas à une intervention chirurgicale parce que le patient ou la patiente n'y survivrait pas. Donc en général, on arrête les dépistages aux alentours de 75 ans dans tous les pays. Sauf que comme les gens et la population est en train de vieillir, votre auditeur a raison, il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui ont 77, 80 ans, qui font leur jardin, qui font du sport, qui sont en pleine santé. Ça, je pense que ça peut se négocier avec le médecin de famille. On continue quand même au cas par cas, quand les gens sont en pleine forme, à faire du dépistage plus tard que ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très éclairant. Bonne journée.
Bonne journée à vous, M. Arcan.
Docteur Michael Bensoussan est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne. Et j'espère juste que les gens qui ont un résultat négatif ne seront pas dans l'attente éternelle, parce que quand tu passes un test, t'as hâte d'avoir le résultat. Puis si on te dit aussi, on vous appelle pas, à partir de quand, si vous m'appelez pas? C'est après une semaine, après deux semaines, après un mois. Alors, on verra comment la machine va s'ajuster.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Le 8 février prochain, tout le Québec va souligner le premier anniversaire de ce drame qui est survenu dans une garderie à Laval. On connaît tous l'histoire, chauffeur d'autobus qui fonce avec son véhicule. On ne sait pas encore pourquoi le processus judiciaire s'amorce et on se demande un peu comment on va réagir. Évidemment, les gens qui ont été directement touchés, mais la population en général qui a aussi été interpellée il y a un an, parce qu'on pense nos enfants en sécurité dans une garderie, et de voir que, dans ce cas-là, il y a quelqu'un pour un motif inconnu qui a décidé de foncer, ça soulève beaucoup de questions. Il y a deux spécialistes qui font une sortie ce matin pour inviter les médias à une certaine réflexion sur la façon de traiter cet événement. Je vous les présente. Docteur Pierre Blot est avec nous. Il est psychiatre et directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale. Docteur Blot, bonjour.
Bonjour.
Et Docteur Stéphane Guay, psychologue, co-directeur du Centre d'études sur le trauma au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Docteur Guay, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Docteur Blot, je commence avec vous, là. Dans quelques jours, ce sera la date officielle, mais déjà, il y a des reportages qui ont été publiés. Quel est le message que vous donnez aux médias? Puis après ça, on va gratter ensemble ce que ça veut dire.
Okay. Ben en fait, quand il y a toujours deux moments importants dans des tragédies, la semaine post-traumatique puis la commémoration annuelle. Et puis c'est pas nous, Stéphane et moi, on a parlé de ça, mais la science enseigne que ça prend quand même une certaine sobriété médiatique pour commémorer cette tragédie-là. Dans le contexte où c'est moins important de toucher aux émotions parce qu'il y a des gens qui sont en période de rétablissement. Cette sobriété-là, c'est d'éviter le sensationnalisme, d'éviter un retour affectif ou un scrutinement des émotions des gens qui ont vécu cette tragédie-là.
Monsieur Guay, donnez-moi des exemples concrets de ce qu'il faut pas faire.
Il y en a plusieurs. Évidemment, forer la détresse là des personnes pour savoir comment ils se sentent aujourd'hui. Alors, avec un micro devant leur visage, c'est quelque chose qui est à éviter assurément. Je pense que le rôle des médias serait beaucoup plus de sensibiliser la population et les aider à comprendre les différents impacts. Parce que dans une situation comme celle-là, bien sûr, il y a le stress post-traumatique qui peut découler de ça, mais il y a aussi du deuil, il y a de l'anxiété, des difficultés de fonctionnement. Certains parents ou éducatrices qui ont été touchés directement peuvent se retrouver à être en arrêt de travail actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, là, incluant donc les gens que je viens de nommer, mais les voisins, les policiers qui sont intervenus, les premiers répondants, etc. Alors, je pense que le rôle des médias est vraiment d'aider la communauté à mieux soutenir ces personnes-là, plutôt que d'essayer simplement de voir comment ces gens-là sont aujourd'hui.
Je vais diviser, j'allais dire, les auditeurs en deux catégories. Les gens qui ont été, comme vous dites, directement touchés, là, les proches, là, les parents d'enfants, les employés de garderie, les premiers répondants qui sont intervenus, pour qui ça a été un traumatisme, choc, et l'ensemble de la population. Il y a un premier répondant, je prends cet exemple-là, qui m'a écrit la semaine passée en disant « J'appréhende cette journée-là parce que je vais revoir un paquet d'images et on va voir en boucle nouvelle les images de la tragédie. Ça a été terrible. Puis je fais 20 ans que je fais ce métier-là. Puis c'est la première fois que je suis confronté à un drame. » Qu'est-ce que vous dites à un premier répondant comme ça, là, qui non seulement a vécu des moments difficiles, mais appréhende cette journée-là?
Ben, c'est sûr qu'il faut bien accompagner les gens. Là. C'est normal là, de vivre de la détresse puis de se remémorer ces choses-là. Ce qu'on cherche ou ce qu'on souhaite que les médias puissent éviter, c'est ce sensationnalisme-là, ces images-là. Les études aux États-Unis, entre autres, bon, montrent très bien que de passer en boucle des trucs comme ça, ben un, le mal-être ou la population, le taux de détresse augmente dans la population en général. Et vous le nommez bien, là, les premiers répondants vont revivre une charge de détresse. Moi, je dirais quand même qu'on est bien fait. On est faut avoir de la gratitude pour soi puis de la bienveillance. C'est ce qu'on demande aux médias. Comme Stéphane l'a bien dit, il s'agit surtout d'aider la population à se réapproprier ce niveau de détresse-là et non pas forer le malheur des gens. Là. Ça, c'est important.
Docteur, oui, vous allez dire quelque chose?
Oui, puis comme il y a beaucoup de variabilité aussi dans la façon dont les gens vont réagir, alors certains premiers répondants ne vivront pas ça de cette manière-là, bien, c'est sûr qu'il faut normaliser cette variabilité-là puis dire, bien, écoutez, ça peut arriver et quand ça vous arrive, bien, n'hésitez pas à consulter, parce que ça va pouvoir vous aider à passer au travers, justement, de ce premier anniversaire-là. Et puis malheureusement, ben c'est ça, c'est des événements qui vont s'étirer dans le temps. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, M. Arcand, le procès n'est pas entamé encore, donc il va y avoir d'autres moments où l'événement va être évoqué. Et je pense qu'à chaque fois, les médias devraient faire attention et faire preuve de sobriété plutôt que de sensationnalisme. Et ça, je pense qu'on le répétera pas trop souvent, mais c'est vraiment ce qui doit guider les médias.
Je parle de ma deuxième catégorie d'auditeurs, c'est-à-dire les gens qui ont été touchés. Moi, j'ai des gens de l'équipe qui ont des enfants qui, ce matin-là, travaillaient puis se sont dit, je peux pas croire que ça vient d'arriver, puis qui sont allés chercher le cœur serré leurs enfants à la garderie. Ils sont pas directement touchés, mais ça les a marqués. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là, Dr. Blum?
Ben, comme Stéphane vient de le dire, faut amener les gens à reconnaître les symptômes de détresse ou les signes de détresse. Puis si la détresse est telle que les gens ont de la difficulté à fonctionner, hein, on a des cas où dans l'intervention, les parents voulaient plus envoyer les enfants à garderie, puis ils s'immobilisaient. Donc, tu sais, c'est comme laisser de côté ta routine de vie, en fait, à cause de la peur. Ben, je pense que d'abord, faut reconnaître cette peur-là. Faut voir aussi l'incidence que la détresse peut amener. Stéphane a nommé que, bon, on a le deuil, on a le stress post-traumatique, mais il y a beaucoup d'autres symptômes. Puis faut pas hésiter d'en parler ou aider l'entourage à repérer ces gens-là. Alors, vous savez, quand c'est arrivé rapidement, l'an passé, Stéphane et moi, on est rentrés en contact pour voir quelle sorte de service qu'on mettait sur pied pour faire du repérage aussi, parce que la détresse se manifeste pas nécessairement dans les 48 premières heures. Là, ça peut prendre des mois avant que cette détresse-là soit comprise, repérée. Donc, ce repérage-là est très important.
Quand vous dites repérage, ça veut dire quoi? Comment vous faites ça?
Ben, en fait, les gens, ben, d'abord, de renseigner, quand on dit il faut que les médias puissent nous aider, ben, que vous renseignez les gens sur la détresse, vivre de l'anxiété, de la peur, de la appréhension, d'avoir des comportements où on cherche à s'isoler. La famille doit reconnaître aussi ces moments-là. Puis aussi parler librement, là, je veux dire, de le reconnaître, parce que quand on ne se sent pas bien, on a tendance à mettre ça de côté, hein. On a tendance à négliger cet aspect-là, en fait. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens puissent justement faire ce repérage-là et aussi amener les gens à consulter, parce qu'il y a une certaine honte, il y a une certaine vulnérabilité qu'on n'aime pas partager au plan psychologique. Puis je pense que c'est ça qui devrait être le point central des médias, de parler, comme Stéphane dit, de normaliser des réactions, puis d'amener les gens qui sont souffrants à consulter s'ils en ont besoin.
J'allais vous dire, on dit souvent que les enjeux de santé mentale sont moins tabous que par le passé. On voit des athlètes qui osent maintenant le dire, ils n'auraient pas fait ça il y a 15 ans. Est-ce que vous le sentez que des gens qui ont ces moments de détresse se confient ou acceptent d'en parler plus librement?
Ouais, ben, en fait, c'est certain que les gens consultent plus. Ça, c'est déjà un avantage. On le voit. Mm-hmm. Je veux dire, on a des enjeux de capacité même parce que bon, les gens veulent être aidés. Mais c'est pas simple quand ça arrive dans une tragédie puis qu'on est dans le plan individuel. Là, c'est pas simple non plus de s'avouer que bon, j'ai besoin d'aide sur le plan psychologique. C'est souvent des gens qui sont dans des positions, vous nommez des premiers répondants. Moi, il m'arriverait une tragédie. T'sais, j'ai toujours aidé les gens, mais tu sais, d'être capable de reconnaître que là, mon niveau de détresse
que c'est vous qui avez besoin d'aide,
de fonctionner. Ça, c'est important, mais c'est pour ça qu'il faut comme normaliser le message. Il faut amener les gens à comprendre, à repérer, puis de mettre les services en place. Il faut que les gens savent aussi où on va si on a besoin d'aide. Puis ça, c'est important, là. Je veux dire, on dit souvent, si vous avez besoin d'aide, présentez-vous à l'urgence, mais il y a d'autres services. Puis les services qu'on a mis en place, puis que le Centre d'études sur le trauma ont mis en place pour suite à la tragédie de Laval, ben c'est des gens qui sont constamment sur le terrain, qui agissent finalement comme thérapeutes, mais aussi en partie d'éclaireurs. Ces gens-là accompagnent les gens qui ont vécu cette tragédie-là, et c'est en parlant qu'on peut se guérir ensemble.
Pour revenir sur la deuxième catégorie de personnes, ouais, ce que M. Arcand nommait, je pense que, tu sais, c'est, alors, d'une part, pour les gens que ça affecte puis qui sont pas affiliés ou attachés, donc, à des gens qui ont été touchés par la tragédie, je pense que l'important, c'est d'en parler. C'est aussi de reconnaître que, malheureusement, dans la vie, des fois, il y a des événements totalement imprévisibles et inexplicables qui se produisent, puis c'est dans ce temps-là qu'il faut le mieux se soutenir possible. Et aux gens qui sont près, de près ou de loin, en fait, de gens qui ont été touchés, ben je pense que le fait d'être bienveillant, bien sûr, d'être à l'écoute s'ils ont besoin de parler, ça, c'est important, mais de pas les forcer non plus de pas forcer les gens qui ont été touchés à parler de l'événement. Donc, suivre leur rythme, c'est très important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le soutien social, c'est vraiment une variable, en fait, un facteur qui va pouvoir faire la différence pour plusieurs personnes à long terme. Donc, meilleur il sera, mieux les gens vont se porter.
En terminant, les enfants, on leur dit quoi aux enfants? On leur cache ça, on répond à leurs questions avec honnêteté, intégrité, en tenant compte de leur âge, évidemment, là, Dr. Blou.
Ben, les enfants, ça réagit toujours aux émotions des parents. Moi, je dis tout le temps, la réalité de la réalité, c'est la meilleure chose qui... Mon seul guide dans la vie, moi, c'est la réalité. Mon imaginaire est peu important. C'est sûr que les enfants peuvent pas digérer des tragédies, mais d'être capable d'en parler à leur niveau, d'être capable de les laisser s'exprimer aussi, de pas essayer de banaliser ce qu'ils vivent. Hein. Les enfants ont le droit d'exprimer leurs émotions. Puis comme Stéphane dit, ben, c'est le tissu social qui permet cette exploration-là des émotions, c'est ce qui est le plus important. En fait, je vous dirais, le niveau de détresse, c'est quand on nie qu'on a beaucoup de détresse. C'est là que c'est grave.
Bien, ouais. Je vous laisse le mot de la fin, Dr. Gay.
Ben, je pense que Pierre vient de dire quelque chose de très important. Il faut tout simplement suivre leur rythme aux enfants aussi, puis répondre aux questions, effectivement, en fonction de leur âge, comme vous l'avez nommé aussi. Et puis, et ne jamais hésiter à en parler. Ça, c'est mon message final.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Docteur Pierre Blot, qui est psychiatre et directeur national des services en santé mentale, et le docteur Stéphane Gay, psychologue et co-directeur du Centre d'études sur le trauma. Et c'est affilié au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 120 ans? Vous allez me dire pourquoi cette question ce matin? Parce que dans la presse, hier, on a posé la question. On a des experts qui se sont prononcés. Et il y a des gens qui mettent de l'avant ce slogan. C'est que 120 ans, ben c'est le 60 ans d'aujourd'hui. J'en parle avec deux invités. Nathalie Collard, de la presse, bonjour.
Bonjour, Paul.
Qui a écrit ce papier. Et Louis Bérère, qui est le directeur du Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, M. Bérère.
Bonjour, M. Arcand.
Je commence avec vous, Nathalie Collard. Pourquoi cette idée-là d'arriver en disant « vivre jusqu'à 120 ans »
En fait, c'est parti de deux choses très personnelles. Un, dans ma famille, tout le monde est mort du cancer dans ma famille maternelle. Ma mère étant celle qui s'est rendue le plus vieux à 80. Alors, c'est sûr que j'avais une petite inquiétude quand je pensais à ma vieillesse. Deuxièmement, on le sait, en 2030, il y a un quart de la population au Québec qui va avoir 65 ans. Les gens vieillissent. Or, je sais pas pour vous, mais moi, je regarde mon environnement puis je suis pas sûre que j'ai goût de vieillir ces temps-ci avec ce qui se passe dans les CHSLD, dans les RPA, dans le manque de soins à domicile, dans la crise du logement. Alors, je me dis, on a intérêt à vivre en santé parce que je suis pas sûre qu'il va y avoir des gens pour prendre soin de nous. Alors, c'est un peu de cet intérêt-là que je suis partie. Et ensuite, j'ai découvert, ben, on parle beaucoup d'espérance de vie. C'est vrai qu'elle a diminué un peu au Canada là, dans les dernières années, mais au Québec, elle continue d'augmenter. Pour les femmes, c'est 80. Or, quand on regarde 84 ans. Mais quand on regarde l'espérance de vie en santé, ah là, c'est pas mal plus bas. C'est 74 ans. Alors, est-ce que c'est important de vivre longtemps? Je sais pas, mais c'est important de vivre longtemps en santé. Alors, ce que j'ai appris en faisant ce reportage-là, puis ça m'a beaucoup rassurée, c'est que la génétique, c'est pas une fatalité, puis que ça compterait peut-être juste pour 20 % de nos pronostics, là. Alors, le reste, ben c'est nos habitudes de vie. Puis c'est là que je trouve ça intéressant. Bon, oui, il y a plein de gens qui font toutes sortes d'expériences puis qui ont des modes
de vie.
J'ai
vu les cas, là. C'est d'abord, c'est une vie un peu spartiate, là.
Oui, c'est sûr qu'il y a des gens, bon, comme Brian Johnson aux États-Unis ou comme M. Mario Tremblay au Québec que j'ai interviewé qui sont à fond dans la longévité et qui, eux, veulent repousser là, les limites du temps puis ont un régime de vie auquel la plupart des gens auront pas le goût d'adhérer puis c'est bien correct. Mais ce qu'on apprend en faisant des recherches, puis moi, j'ai juste effleuré le sujet. Là. Il y a des livres qui s'écrivent là-dessus. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent puis qui s'écrivent. C'est qu'il y a des habitudes de vie qu'on peut adopter dans notre vie au quotidien, que ce soit de bien manger, de bouger, de bien dormir et d'avoir des interactions sociales. Puis ça, ça a un impact direct sur notre longévité en santé.
Bon, Dr Bérard, justement, je vais vous entendre là-dessus parce que la première question, l'enveloppe humaine est faite pour vivre combien de temps? Si là, on est respectueux d'un mode de vie bien réglé, bonne alimentation, comme vient de dire Nathalie, là, avec des interactions sociales. Techniquement, le corps humain peut vivre combien de temps?
Ça, c'est une excellente question, M. Arcand, puis moi, j'ai pas la réponse à ça. Il faudrait parler à des biologistes, puis ils vont vous donner des réponses probablement très théoriques, de toute façon. Comme le disait Mme Collard, 120 ans, c'est un chiffre, là, un petit peu magique, là, les groupes d'Américains qui travaillent là-dessus et qui pensent qu'on peut biologiquement vivre jusqu'à 120 ans. Je pense que, de toute façon, se poser cette question-là, c'est pas poser la bonne question. C'est ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment moi je peux faire, individuellement et dans mon environnement, pour vieillir le plus longtemps possible et le plus en santé possible. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et comme le disait Mme Collard, ben il y a quelque chose que je peux faire dès aujourd'hui, dès demain matin, que je sois malade ou pas, que j'ai tiré le mauvais billet génétique ou pas. C'est pas si important que ça. Il y a quelque chose que je peux faire par le style de vie, par les choix que je fais à chaque jour pour améliorer ma qualité de vie, puis vivre plus longtemps, puis en meilleure santé.
OK. Donnez-moi des exemples de ça.
Bon, nous, on au Centre Épic, on est un centre de médecine préventive et d'activité physique. Fait que l'activité physique, c'est la première chose qu'on préconise. Se garder en forme physiquement, manger de façon équilibrée. On parle souvent de la diète méditerranéenne, ça reste l'option numéro un. Pas trop manger non plus, hein. On n'est pas obligé de gonfler tous les jours. Faire attention à ça. Le sommeil aussi, c'est extrêmement important. Le contrôle du stress. Vous avez parlé un peu plus tôt avec mon collègue, le Dr Stéphane Gay, là, sur la prévention en maladie mentale. Super important, la dépression, l'anxiété, là, c'est pas bon, ça, c'est fatal. Et il faut, évidemment, l'anxiété, jusqu'à un certain point, on faut vivre avec, mais apprendre à le contrôler, apprendre à vivre avec des bonnes approches, tôt dans la vie, c'est une bonne chose. On a parlé aussi d'isolement social. Ça, c'est un gros mot, hein, on le sait, puis peut-être COVID, la crise COVID nous a un peu réveillé là-dessus. L'isolement social, les gens seuls, ils vieillissent moins bien. Alors, c'est recommandé par les grands groupes médicaux, les consensus médicaux, de chercher le contact social régulièrement, surtout pour les personnes âgées qui, parfois, malheureusement,
leur environnement, la chance qu'ils ont eu de vivre longtemps.
Mais est-ce que c'est pas difficile dans le sens suivant? Une bonne alimentation, vous me parlez du régime méditerranéen, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça coûte cher, là, le poisson, puis l'huile d'olive, puis bon. Il y a un enjeu économique. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Donc, d'avoir des interactions, c'est pas simple non plus. Ce que vous décrivez, on comprend que c'est l'idéal, mais est-ce que c'est réaliste?
Ben, d'abord, faire du sport et bien manger, ça coûte pas si cher. Hein. On n'est pas obligé d'aller à un gym de haut de gamme puis de manger justement du saumon fumé tous les matins. Je pense qu'on peut, clairement faire des choix plus simples. Évidemment, bon, tout le monde le vit, là, il y a une grosse crise économique présentement dans les épiceries. On le sait que tout le monde sait qu'on paye beaucoup plus cher que l'année dernière. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a des choix qui peuvent être faits, qui sont accessibles pour la plupart des personnes. Bien manger, là, ça coûte pas plus cher que d'acheter des chips. Hein. Ça coûte cher des chips aussi, là. Donc, les choix qu'on fait au quotidien, ils sont accessibles pour la plupart des personnes. Moi, j'en suis assez convaincu.
Mais c'est pas, je vais vous dire, je vois des annonces de McDonald's avec des super rabais à 5,99. Le junk, ça peut attirer pour pas cher aussi.
C'est certain que l'environnement dans lequel on vit, puis je pense qu'il y a un article dans dans le dossier de Mme Collard hier qui notait ça, là, c'est que c'est un choix, la prévention des maladies et vieillir en santé, c'est un choix collectif. C'est pas la responsabilité du médecin, de l'infirmière ou même du professeur à l'école. Là, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est sûr que si on se met à laisser des McDo se pointer à tous les coins de rue, ben on joue pas en faveur de prendre des bonnes décisions préventives. Donc, il y a un choix collectif à faire. Il faut pas non plus devenir, comme vous le disiez tantôt, trop rigoureux de là avoir une qualité de vie qui serait complètement nulle. Là. Il faut prendre des choix, avoir du plaisir quand même aussi, mais le faire avec une certaine modération, je pense que c'est important. Et c'est accessible pour tous.
OK. Est-ce que vous avez vu dans votre clientèle à l'EPIC, là, au centre EPIC, des gens qui avaient des enjeux de santé ou des diagnostics et avec des changements d'habitude, je dirais, retrouver, peut-être pas à 100%, mais retrouver une bonne partie de la santé?
Oui, ça, c'est définitivement quelque chose qu'on observe beaucoup. Et d'ailleurs, le centre EPIC est aussi un centre de réhabilitation cardiaque en premier lieu. Donc, c'est un centre qui traite des gens qui ont eu des événements cardiaques. On est très intéressé par l'axe cœur-cerveau, hein, parce que ce qui est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau, et réciproquement, parce qu'un cerveau en santé, ben ça nous aide à prendre soin de soi un peu mieux, de pas oublier nos pilules, puis de suivre les recommandations médicales. Donc, les gens qui ont eu, par exemple, un événement cardiaque ou une chirurgie, d'abord, s'ils sont en meilleure santé, s'ils ont un mode de vie préventif, ils vont mieux répondre au traitement médical, ils vont plus vite se rétablir aussi d'une chirurgie, par exemple. Et après un événement, ils vont avoir une meilleure qualité de vie aussi et ils vont pouvoir améliorer, par des choix de saines habitudes de vie, améliorer leur santé physique également.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr. Bérère. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir, Dr. Louis Bérère, et le directeur du Centre EPIC, donc rattaché à l'Institut de cardiologie. Nathalie Collard, quelques questions?
Oui.
D'abord, ce genre de slogan, si on veut, là, 60 ans, 120, là, ça laisse toujours présager, je dis pas que c'est le cas, là, mais des arnaques potentielles de vendeurs de recettes magiques, de traitements spectaculaires pour essayer de, je dirais, séduire des gens qui seraient tentés d'adhérer à ce genre d'approche.
Tout à fait. Puis il y a toute une business, je dirais, là, de la longévité, surtout aux États-Unis. Beaucoup de cliniques privées où on peut aller se faire scanner sous toutes les coutures, prendre des prises de sang pour voir nos biomarqueurs. Bien sûr, après ça, on va vous proposer des suppléments qui sont personnalisés pour vous. Écoutez, ça fonctionne. Moi, j'en ai parlé avec le docteur Bérère puis avec d'autres spécialistes. Les suppléments, c'est pas que c'est mauvais, mais ça n'a pas le même effet sur tout le monde. Si vous n'avez pas de carence, pourquoi prendre des suppléments? Puis ça sera toujours mieux de le prendre dans des vrais aliments que de le prendre en pilule. Alors, il y a toute cette business-là de clinique privée. Et puis après ça, bien, il y a toutes sortes de régimes de vie. C'est pour ça que moi, je voulais ramener ça à la base un peu. Puis quand je parle des piliers de la longévité, c'est pas tout le monde qui va aller prendre des suppléments, puis personne n'a les moyens. On a de la misère à se faire scanner pour une vraie maladie. Là, on n'ira pas passer des scans pour voir si on vieillit plus vite. Mais j'aimerais ça ramener ça à des choses très concrètes, justement. L'alimentation, l'exercice. L'exercice, ça veut pas dire s'entraîner pour un demi-marathon. Là, ça veut dire aller prendre une marche avec un ami tous les jours. C'est ça aussi l'exercice. Puis je trouve ça intéressant de parler de l'environnement dans lequel on propose aux gens de vieillir. vieillir au Québec et ailleurs, parce qu'on n'est vraiment pas la seule société là, avec le même problème. Quand on va voir dans des sociétés où les gens vieillissent mieux, il y a comme une communauté, un esprit de communauté. Les gens vieillissent avec toute génération confondue. Ils ont un sens à leur vie. Ils prennent pas leur retraite à 65 ans. Ils travaillent peut-être toute leur vie, ou en tout cas, ils se sentent utiles toute leur vie. Leur vie a un sens. Ici, je pense à des gens qui pourraient vivre seuls. Bon, on peut passer une journée sans parler à un être humain. Aujourd'hui, on va à l'épicerie puis c'est une caisse automatisée. On va à la banque, c'est un guichet automatique. On va au métro, on passe notre carte. Je veux dire, pour une personne âgée qui vit seule, mais qui est moindrement dynamique puis qui sort de chez elle, elle peut passer une journée complète sans parler à un être humain. Ça fait que ça va au-delà de nos décisions personnelles. Je trouve que c'est, en tant que société, on peut se poser des questions. Quelle sorte de vie on offre aux gens pour qu'ils se développent puis qu'ils vivent longtemps? Même dans l'urbanisme, dans l'architecture, il y a des architectes qui travaillent sur des blocs de condos, des complexes de condos où il y a des espaces communs pour que les gens se rencontrent, se croisent dans les couloirs. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On fuit les autres. On est bien qu'on est tout seul, mais c'est pas bon pour notre santé.
J'ai fait un sondage au sein de l'équipe en leur disant, est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 120? Ouais. La réponse, c'est non.
Ben,
les lecteurs, écoutez, ils disent quoi?
Les lecteurs sont pas mal d'accord avec votre équipe. C'est-à-dire que on imagine notre vieillesse selon les critères actuels. Bon, tous nos amis seraient morts ou à peu près à 120 ans, on connaîtrait plus personne. Puis comment on se voit vieux? Ben au Québec, on se voit peut-être dans une petite chambre, peut-être tout seul, peut-être avec pas de soins, peut-être avec un bain par semaine, peut-être. Alors, est-ce qu'on a le goût de vivre jusqu'à 120 ans? Pas vraiment.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Nathalie Collard de La Presse. Nous allons vivre ensemble un grand moment de radio parce que Fred va dévoiler ce matin les conclusions de son enquête.
Oui, maison.
Oui, sur les comportements étranges des hommes qui magasinent de la lingerie pour leur conjointe à l'occasion de la Saint-Valentin.
Parce que vous le savez, j'ai un dada pour l'observation de l'être humain dans toute sa splendeur, les Québécois dans le Sud, la gestion des vidanges, le monde des coiffeuses qui reçoivent des confidences des clients. Et il y a deux semaines, j'ai eu une discussion avec notre collègue Catherine. On parlait des messieurs qui vont magasiner de la lingerie pour leur conjointe à la Saint-Valentin. Puis on se disait, c'est certain qu'il y a des cas, des spécimens assez particuliers. Puis tout ça m'a trotté dans la tête un certain temps et j'ai décidé de me pencher sur la question. Et j'ai fait une enquête maison et, ne reculant devant rien, j'ai appelé dans une vingtaine de boutiques de lingerie qu'on connaît. Puis là, je vais pas les nommer parce que j'ai pas passé par les canaux officiels, là. C'est des employés qui ont accepté de me parler sous le couvert de l'anonymat. Mais il y en a qui, ça a été comme une espèce de canal pour
se défouler.
Et mon hypothèse était solide qu'il y a des tendances récurrentes qui s'observent dans le comportement de certains hommes qui vont dans les boutiques de lingerie pour magasiner pour leur conjointe. C'est pas une blague, là. C'est généralisé et c'est un sport extrême pour ceux qui travaillent dans les boutiques de lingerie. Et j'ai décelé trois catégories d'hommes qui ont des comportements étranges. D'abord, t'as les voyeurs, le petit côté voyeur, les tâteux et les vicieux. Et j'avais le goût de commencer avec les voyeurs parce que 80% des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge. Ça, c'est prouvé. Alors, imaginez si les femmes ont de la misère à trouver leur propre soutien-gorge pour elles, ce qu'un homme peut vivre quand c'est lui qui va magasiner. C'est pas évident, il est mêlé. Et dans la majorité des boutiques que j'ai sondées, il y a une chose qui revient, c'est que les hommes qui ne connaissent pas la taille de sous-vêtements ou de bonnets de leur conjointe sont prêts à faire bien des affaires, incluant utiliser les employés pour démontrer à peu près n'importe quelle taille, les utiliser comme mannequins littéralement. Est-ce que c'est 32B, 36D? Voilà ce que ça donne.
Il va y avoir des messieurs qui vont rentrer pour leurs femmes, qui ne connaissent pas leur grandeur. C'est un petit peu plus grande, mais c'est un petit peu plus petite que toi. Ils vont nous utiliser comme exemple. Des messieurs qui nous ont demandé d'essayer des trucs pour voir comment ça fait, pour avoir une idée.
Et là, dans la majorité des cas, bon, ils refusent puis ça rend mal à l'aise ces employés-là qui sont pour la plupart des jeunes femmes. Et ce qu'on vient d'entendre, là, c'est pas occasionnel, c'est très fréquent. Et ça, c'est léger. Il y a aussi les tâteux et les vicieux, là, j'arrive, qui font leur magasinage comme une espèce de petite sortie épicée. Et les vendeuses sont témoins de gestes étranges, de comportements qui ne sont pas toujours, encore une fois, isolés.
Dans toute la boutique, on a des affiches avec des femmes et avec la lingerie. Et il y a un monsieur qui m'a demandé même si elle peut m'acheter les affiches.
Ils vont commencer peut-être à toucher les fesses des mannequins, bouler mannequins, rouler leurs mains en dessous. Ça arrive souvent.
Il a juste commencé à se déshabiller. C'était à l'extérieur des cabines. Il a été sexuellement réveillé, on va dire.
Pardon, qu'est-ce qu'il faisait dans les cabines?
En fait, non. Lui, il a décidé qu'il se mettait flambette, comme ça, dans le magasin.
Ah bon?
Et il y a aussi des hommes qui passent un peu trop de temps dans la boutique à regarder bon les sous-vêtements et les accessoires sur les mannequins en plastique. Tu sais, quand ça fait deux heures que t'es là, à un moment donné, va prendre une marche, va te chercher un café, quelque chose. Mais en tout cas, si vous travaillez dans le domaine, respect, parce que c'est, ça me semble pas évident.
Tenter le mannequin.
Tenter le mannequin.
Ça se peut pas.
Regarder en dessous de la petite culotte. Est en plastique,
j'ai,
le mannequin.
J'ai avec Bénédicte développé, évidemment, Bénédicte a un oui. champ de, d'expertise bien précis, l'expression « ça va pas bien au Québec oui. ». Puis c'est sûr qu'on a les pires cas, tu vas me dire, dans le domaine de la justice, mais il me semble qu'il y a beaucoup de manifestations de dérive un peu, de gens qui sont perturbés.
Puis on me partageait ces choses-là, puis je me disais, mais non, ça se peut pas. Fait que je continuais à appeler une autre boutique, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va me dire à un moment donné que ça se peut pas. Mais non.
Deux heures dans le magasin à tenter la marchandise, toi.
Ouais.
C'est 23.